On va commencer, Bezrat Hashem, notre premier cours sur Igeret HaTeshuva, nouvelle section du Tanya. En fait, c'est la troisième section du Tanya. J'ai mis de côté la deuxième, qu'on reviendra dessus, si Dieu veut, Bezrat Hashem, après. Donc, troisième section du Tanya, qui est intitulée Igeret HaTeshuva, épître sur la repentance. D'accord, repentance, la Teshuva. Alors, tout d'abord, une petite introduction. Pourquoi c'est particulièrement important de parler de Igeret HaTeshuva? C'était en Tafshin Trafret, 1968. Le Rabbi a longuement encouragé l'étude de Igeret HaTeshuva, qui comporte 12 chapitres. Donc vous allez voir, c'est relativement court. Et c'est même, à mon avis, beaucoup plus accessible que la première partie du Tanya. Donc même ceux, bonsoir, même ceux qui étaient peut-être un petit peu largués dans la première section du Tanya. Mais cette section qu'on va étudier, vous allez voir, c'est vraiment très accessible. Très accessible et c'est très structuré. Il y a 12 chapitres, c'est pas long. En quelques mois, on va la finir. Et chaque chapitre a un thème différent, c'est très structuré. Donc vraiment, chacun de nous pourra comprendre et sortir avec quelque chose. On sort toujours d'un cours avec quelque chose. Mais je pense que dans cette section, on sortira encore plus. Alors, le Rabbi, lorsqu'il a lancé la campagne d'étudier Igeret HaTeshuva, il expliquait que de nos jours, le fait même d'étudier cette lettre Igeret HaTeshuva, c'est comptabilisé comme si on faisait Teshuva. C'est-à-dire que le simple fait d'étudier cette lettre, Dieu nous compte ça comme si on avait fait Teshuva. Alors, en fait, je vais donner une petite introduction sur la Teshuva. Quand on parle de Teshuva, dans la tête de beaucoup de gens, vous allez me dire, pourquoi on parle de Teshuva maintenant? C'est pas Rosh Hashanah, c'est pas Kippour. C'est une petite voix au fond de nous qui dit ça. Vous allez voir qu'en vérité, quand on parle de Teshuva, on va commencer dans le premier chapitre à expliquer comment il y a beaucoup d'idées reçues qui sont complètement fausses. Mais vraiment. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui associent la Teshuva au jeûne. Jeûner. Il y a des gens qui vont associer la Teshuva à un changement radical. Il y a des gens qui vont associer la Teshuva à des hommes d'exception. Il y a des gens qui vont associer la Teshuva à des grands mécréants. Etc, etc. Et vous verrez beaucoup, beaucoup d'images. Et on va voir, l'Admor HaZaken va nous développer point par point pour nous expliquer qu'est-ce que la Teshuva. Alors, quand je dis qu'est-ce que la Teshuva, il y aura plusieurs niveaux. Tu auras la Teshuva de base, et après tu auras la Teshuva, toute option. C'est comme dans tout. Mais il faut expliquer qu'est-ce que la Teshuva. Vous allez voir que, finalement, on va comprendre que pour faire Teshuva, il ne faut pas forcément fauter. On ne fait pas Teshuva que de ses fautes.
Alors, j'ai pas besoin de faire Teshuva.
Ah, ok. Je n'en dis pas plus. Nous sommes que dans l'introduction. C'est juste pour nous mettre un petit peu dans le bain. Alors, je voudrais expliquer un deuxième point, c'est que, comme la première partie du Tanya, cette troisième section du Tanya commence par le mot, vous l'avez devant vous, Perek Aleph, chapitre 1. D'accord? Elle commence par le mot Tanya. Alors, passage, aujourd'hui on a des photocopies.
Tanya Bassof,
c'est ça. Oui, Tanya. Après, je vous dirai comment on fait si Dieu veut, on va acheter des livres, si Dieu veut. Donc, c'est comme d'habitude. Mais, ça commence encore une fois par le mot Tanya. Pourquoi Tanya? Tanya, d'abord, ça veut dire c'est enseigné. Mais Tanya, c'est les mêmes lettres que Etan. Etan, qui veut dire en hébreu, la force, la puissance. Ça veut dire que, un des buts du Tanya, c'est quoi? C'est de nous aider, nous donner une puissance pour combattre certaines choses qui sont très difficiles à combattre.
Tanya, ça veut dire la force, c'est ça? Ouais.
Tanya, ça veut dire c'est enseigner. Mais Tanya, enseigner, c'est aussi les mêmes lettres que Etan. Etan, la force. Etan, la puissance. Car le but du Tanya, c'est de nous aider à dévoiler la puissance qui est en nous. Alors, vous allez voir, on va commencer de façon très technique. Vraiment, ça veut dire que le premier chapitre, ça va être la halakha, sur la teshuva, on va amener une mishnah, on va amener la gemara, on va amener, tout de suite, vous allez voir, c'est vraiment, avant d'arriver au sod, on va devoir, c'est qu'au chapitre 4 qu'on va commencer à toucher le sod. Ah, pour l'instant, on va commencer vraiment terre à terre. Parler de teshuva, sur quoi on fait teshuva, est-ce qu'il y a des catégories de fautes, etc., etc. On est prêt? Alors, Bezrat Hashem, on y va. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, Monsieur Benita inclus, n'hésitez pas à m'arrêter.
Ah, c'est gentil, merci, merci.
Alors, si ça ne vous dérange pas de mettre votre téléphone en mode vibreur, ou encore mieux en mode avion, parce qu'on va décoller. Alors, on va dire un petit Lechaïm pour célébrer, de la même façon qu'on a dit Lechaïm, pour terminer une section du Tanya. On va dire maintenant Lechaïm pour célébrer le début d'une nouvelle section du Tanya. Voilà. Voilà. Tiens. Raïm.
Je ne sais pas servir.
Monsieur Bonneau, un petit fond?
Non.
D'accord. Monsieur Benita. Merci. Marcel.
Non, merci.
David.
David, yes.
Joseph.
Oui.
Ah oui, ouais. Il est là, il est
là.
Bien sûr.
Ah ouais. Ah ouais,
allez. Allez.
Surtout.
Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nia bidvaro.
C'est une boisson d'homme, oui. C'est une boisson d'homme. Il y a de la pomme dedans.
Oui.
Pour ceux qui font du sport comme toi.
Du vrai sport. Et ça, ça vient de le dire, ça, ce que j'ai vu de l'iceberg.
Ouais.
Et...
Ok.
Vous avez trouvé à qui envoyer vos blagues.
Hein. Allez, bonne, on va vous gâter là.
J'en ai d'autres, mais j'ose pas.
C'est mignon.
J'ose pas. J'en ai d'autres, mais j'ose pas.
Le mec qui a sorti là.
Oui. On va boulot.
Il est tout maigre. Hein.
Merci.
C'est ah, oui, tout maigre.
C'est lui qui te l'a filé?
Non.
J'ai pas pris les petits cuirs, c'est lui, les couchettes. Bon, on va en mettre quelques-unes, ça. Et attends, c'est quoi le petit bouquin? C'est le petit livre, c'est celui-là?
Oui, c'est photocopie. Le premier chapitre. Il y en a 12. J'ai mis le premier chapitre, comme ça au moins on peut commencer. Alors on y va. Tania. Donc tout d'abord, on va commencer en haut de la page. L'écouté Amarim Chelek Shlishi. Compilation d'enseignement, troisième partie. Anikra Beshem Igeret Hatshuva. Qui est appelé Igeret Hatshuva. J'ai dit tout à l'heure que la deuxième partie est relativement complexe. On verra dessus plus tard. Là, on est parti direct de la première partie à la troisième partie, mais c'est des parties qui sont bien sûr complètement indépendantes. Donc, on va lire ensemble, on va développer. Tania Besof Yoma. Il est enseigné dans une Beraita, dans un enseignement donc, du Talmud, à la fin du traité Yoma, dans le Talmud. Shlosha Chiluki Kaparaem. Il existe trois formes différentes d'expiation. Donc, déjà, on va t'expliquer pour faire teshuva. Il faut d'abord comprendre sur quoi tu fais teshuva. Vous allez me dire, il y a 613 mitzvot, je trouvais bien. Mais dans les 613 mitzvot, on retrouve trois catégories. Vous allez voir comment ça va nous parler tout de suite. C'est-à-dire que toutes les fautes qu'on fait, ou pas, rentrent forcément dans une de ces trois catégories. On va expliquer. Première catégorie. Avar al mitzvot ase veshav. Si une personne a manqué d'accomplir une mitzvah positive. Exemple. Il avait la mitzvah aujourd'hui de mettre les téfilines. Il n'a pas mis les téfilines. Donc, qu'est-ce qu'il a transgressé?
Un commandement positif.
C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah. Dieu t'a demandé de faire quelque chose, tu ne l'as pas fait. Vous savez bien que nous avons 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. Donc, comment on transgresse une mitzvah positive?
En ne la faisant pas.
Par exemple, Dieu t'a dit de lire le schéma, le matin et le soir. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai oublié de lire le schéma. Donc, j'ai transgressé une mitzvah positive. Alors on te dit, Veshav, il a fait teshuva. Ça veut dire quoi faire teshuva? Ça veut dire qu'il a admis son erreur, il a pris sur soi de plus recommencer. Celui-là, dit la Mishnah, Einozaz Misham Hachemochalimlo. On lui pardonne sur le champ. Ça veut dire qu'une personne comme ça, il n'a pas besoin d'attendre Yom Kippour, il n'a pas besoin d'attendre la mort, il n'a pas besoin d'attendre le Gan Eden, le Gehinom, le Karcher. Une faute comme ça, tu fais teshuva sur place, t'es pardonné. Donc voilà, exemple concret. Imaginez quelqu'un, aujourd'hui, il était pressé, il était à la bourre, il dit, bon, je mettrai les tefillines cet après-midi. L'après-midi, elle passe, 17h30, il a raté l'Osman. C'est fini, d'accord, 18h maintenant, c'est fini. Il s'est pas rendu compte, il était pris par les affaires, il était dans un sous-sol en train de travailler, pas vu, pac, 18h, il a raté les tefillines. Il regrette sincèrement. Comment il regrette? Bien sûr qu'il regrette, c'est facile de regretter, le regret est facile. C'est un regret sincère. Ça veut dire, il dit, dorénavant, je ferai en sorte que ça n'arrive plus. Comment il va faire si ça n'arrive plus? Par exemple, il va dire, dorénavant, je mettrai les tefillines le matin dès que je me réveille. Ou bien dorénavant, je vais mettre un rappel dans mon téléphone qui va pas me lâcher tant que j'ai pas mis les tefillines. Donc c'est ce qu'on appelle une teshuva. C'est-à-dire une teshuva concrète. On dit celui-là, Dieu lui pardonne tout de suite. C'est pas mal. Sans qui pour, sans rien. Tout de suite. Deuxième catégorie.
Mais il peut lui arriver d'oublier une seconde fois.
J'ai compris. Mais bon, il faut qu'au moment où il fasse teshuva, il est sincère.
Oui, sincère.
Mais ce que je veux dire, c'est que la teshuva est obtenue immédiatement. Dieu t'accepte tout de suite. Il dit pas attends, on va attendre Kippour, attends, on va attendre la mort, on verra en haut. Non. Pour une transgression d'une mitzvah positive, ça veut dire une omission donc d'accomplir une mitzvah positive, la teshuvah peut être obtenue sur le champ. Première catégorie. Deuxième catégorie. Ava al mitzvat lotase veshav. Si une personne a transgressé une mitzvah négative. Alors là, on verra tout de suite juste après que, pardon, il y a deux catégories de mitzvahs négatives, mais je vais commencer par la première. Mitzvah classique. Par exemple, Dieu t'a interdit de porter un vêtement.
De lin et de laine. Dans
lequel on a mélangé la laine et le lin. Et toi, tu as porté. Peut-être t'es fait exprès, peut-être pas fait exprès. En tout cas, tu as porté ce vêtement.
Mais deux vêtements différents, est-ce que c'est possible?
Oh, c'est un autre sujet. Je parle d'un seul vêtement. Dans le même vêtement, tu peux pas avoir la laine et le lin. Maintenant, lui, il s'est pas rendu compte, il a pas fait exprès ou pas. Concrètement, il a porté ce vêtement. Donc là, qu'est-ce qu'il a transgressé? Une mitzvah
négative.
Autre exemple. La Torah, elle te dit, tu n'as pas le droit de manger du sang. Poire, manger du sang. Il a bu du sang. La Torah, elle te dit, par exemple, tu n'as pas le droit de travailler Shabbat. Il a travaillé Shabbat. Donc là, c'est une transgression du mitzvah négative. Il y a des mitzvahs positives, par exemple la Torah te dit tu vas prier, tu vas mettre tes tefilines, c'est positif. Il y a une mitzvah négative, la Torah te dit tu feras pas ça, et moi je l'ai fait quand même. Alors là, c'est plus compliqué. Là, tshuva tola, la tshuva immédiate, ça veut dire je prends sur moi que ça ne se reproduira plus, je prends des mesures concrètes. Donc tshuva tola, la tshuva suspend la punition, elle met en pause. Viyama Kippouri Mechaper. Et le jour de Kippour pardonne. Plus tard, on expliquera pourquoi le jour de Kippour peut pardonner. Ça va être aussi dans Egarat Hatshuva. Donc là, on a l'impression que transgresser une mitzvah négative, c'est plus grave que omettre d'accomplir une mitzvah positive. La preuve, c'est que la mitzvah positive, j'obtiens la Teshuva
tout de suite
sur le champ. Et le pardon sur le champ, parce que faut bien comprendre que là, on parle, il y a deux choses, il y a Teshuva et Kapara. Teshuva, c'est mon retour. Kapara, c'est l'acceptation de mon retour. Moi, je peux m'excuser, mais il faut qu'en face, il y ait du répondant, il faut qu'il accepte. Donc, on te dit comme ça, on te dit, si tu as transgressé une mitzvah positive, tu fais Teshuva sur place, t'obtiens Kapara sur place. Mechila, Slicha, Kapara, Teshuva, c'est bon. Par contre, si tu as transgressé une mitzvah négative, peu importe laquelle, on verra après, il y a des particulières qui sont encore plus graves que ça. Mais si tu as transgressé une mitzvah négative, il a travaillé Shabbat, il a mélangé du lait de la viande, il a mangé du lait de la viande, etc. Dans ce cas-là, on te dit, la teshuva met en pause la punition, et à Kippour, c'est là que Dieu y met la capara. Si vous voulez, c'est comme aujourd'hui, on voit par exemple, il y a des fois des gens qui font des bêtises, et le tribunal va dire, bon, bah, écoutez, vous mettez en dépôt, consignation, une certaine somme d'argent.
La préventive.
Voilà, ça veut dire que on n'a pas encore donné le verdict. Faut qu'on juge, mais entre temps il est en voilà, il y a une caution. Entre temps il est en liberté sous caution. Vous savez ça?
Voilà.
Comme en Amérique. Alors c'est un peu ça si vous voulez. Là si je transgresse une mitzvah négative, je dis écoute, tu fais le choix maintenant, je te laisse sous caution chez Kippour. À Kippour on va clôturer. Le problème qu'on a, c'est que si on suit cette démarche, après on verra la troisième catégorie de fautes, mais déjà avec les deux premières catégories, si on suit cette démarche, ça laisse entendre que transgresser une mitzvah négative, c'est plus grave qu'omettre d'accomplir une mitzvah positive. On est d'accord? Donc, ok, mais c'est un problème de dire ça. Ça veut dire que finalement, si on dit ça, une mitzvah négative a plus de valeur qu'une mitzvah positive. Elle a la préséance. Or, c'est faux, halakhiquement. Je vais expliquer, je vais donner plusieurs preuves.
Dans un cas, il y a une action, dans l'autre.
Oui, mais je comprends. Mais ça va expliquer. C'est faux, halakhiquement. Une mitzvah positive, une mitzvah négative ne repousse pas une mitzvah positive. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez un enfant qui naît Shabbat. Le huitième jour, garçon, huitième jour, on lui fera la Brit Mila. Mais il y a un problème. Le Shabbat, on n'a pas le droit de faire couler le sang. Donc là, on a un conflit entre deux mitzvot. Une mitzvah négative qui me dit de ne pas faire couler le sang. Et une mitzvah positive qui me dit de
faire la Brit.
Laquelle a la préséance?
Faire
la Brit Mila. Donc vous voyez que la positive repousse la négative. Autre exemple. Au Beit HaMikdash, on offre le sacrifice même le Shabbat. Pour offrir le sacrifice, il faut allumer le feu, il faut faire la shrita et la totale. Comment c'est possible? Parce que la même Torah qui t'a donné une mitzvah négative, qui t'a interdit justement d'allumer le feu Shabbat, cette même Torah, elle t'a donné une mitzvah positive d'offrir le sacrifice Shabbat. Or, une mitzvah positive a toujours la préséance sur une mitzvah négative. Il y a plein d'exemples comme ça. Dans le langage talmudique, ça s'appelle asé, doré et lota asé. Une mitzvah positive repousse une mitzvah négative. Et donc dans ce cas-là, alors je vous donne encore un autre exemple. D'accord? Imaginez par exemple quelqu'un, voilà. Imaginez par exemple quelqu'un qui doit mettre du techelet, du titit, dans un vêtement en lin. Vous connaissez ce cas? Actuellement, le Shabbat après-midi, on a commencé à étudier les lois de titit. Voilà. Imaginez une personne qui a un vêtement en lin. Et qui a envie de mettre un titit dessus. Le titit doit être en quelle matière?
En laine.
En laine. Là, j'ai un problème. Parce que si le titit est en laine, alors que le vêtement est en lin, ça assourd. Qu'est-ce que te dit l'halakha? Ça te dit il a le droit.
C'est pas tissé.
Pourquoi? Non, bien sûr que c'est tissé. C'est attaché. C'est assourd.
Non, si, là, il y a deux vêtements.
Si c'était, c'est pas deux vêtements, c'est attaché. Si c'était pas dans le cadre de la mitzvah des titites, ça aurait été assourd. Mais comme il y a une mitzvah positive qui te dit de mettre les titites et que le titite doit être en laine, peu importe le vêtement, donc la mitzvah positive repousse la mitzvah négative. C'est un principe. Alors, ça nous pose problème. Si tu dis qu'une mitzvah positive repousse une mitzvah négative, dans ce cas-là, comment ça se fait que pour faire teshuva sur une omission d'une mitzvah positive, je peux obtenir la teshuva sur le champ, hein?
Alors que la négative.
Je comprends. Pour la négative, on te dit non. Pour la négative, on te dit, il faut attendre Kippour.
D'accord, mais là, parce que dans la positive, tu as réparé.
Non. Ah non, t'as pas réparé. Au contraire.
Dans la positive, c'est tu fais. Tu dois faire.
Ok.
Donc tu n'as pas fait, et tu dis, ça y est, c'est bon, je vais faire.
Ah oui, mais seconde. Mais ce que tu n'as pas fait, tu ne pourras plus jamais rattraper. Ah. Tu comprends?
On te dit que tu es pardonné sur le champ.
Ah, c'est la question que je pose. Très, très bonne question. C'est la question que je pose. Maman, je te pose la question. Parce que imagine-toi par exemple quelqu'un, tu lui as prévu 120 ans. Allez, de 13 à 120 ans. Ça fait combien d'années?
107.
107 ans, vous comptez le nombre de tefillin qu'il va mettre. D'accord? Vous comptez, vous calculez. D'accord?
107 fois 305.
107 fois, non, pour enlever les Shabbats, etc. D'accord. Ça veut dire que, un jour que tu as raté les tefillin, ce jour est irrécupérable. Tu peux mettre les tefillin deux fois demain, tu ne rattraperas pas la fois que tu n'as pas mis.
Mais ça ne veut rien dire, concrètement,
35. Ça ne veut pas rien dire du tout.
On n'a pas un quota à respecter.
Bien sûr.
Mais non, un commandement positif.
Dieu t'a donné une mitzvah chaque jour.
C'est un commandement positif.
Mais là, évidemment. Dieu m'a donné une mitzvah chaque jour. Aujourd'hui, j'avais une mitzvah de faire quelque chose. Je ne l'ai pas fait.
Mais si Dieu avait prévu 70 ans, et par son mérite,
c'est pas très grave.
Bien sûr, c'est grave. C'est très grave.
C'est pas très grave.
Mais bien sûr, c'est grave.
Le lendemain, tu vas pas.
Ce qui est raté, est raté.
Lendemain, tu mets deux poils.
Non, donc normalement, ça ne change rien. Non, ce que je te dis. David, imagine-toi que tous les jours, tu peux gagner 10 000 euros. Aujourd'hui, tu n'as pas été préparé pour aller les chercher.
C'est pas grave. Si un jour, je ne gagne pas 10 000, hein? C'est pas grave.
Mais les 10 000 que tu n'as pas gagné, tu ne les gagneras pas demain. Même si demain, tu vas mettre les bouchées doubles, tu vas travailler 20 000, mais les 10 000 d'aujourd'hui, tu ne les as pas eues. Tu as fermé la boutique, tu as fermé la boutique. L'argent qui aurait pu rentrer, il n'est pas rentré. On est d'accord. Avec l'argent, ça marche, non?
Non, mais il est d'accord, même si tu ne fais pas les 20 000 euros.
Ça arrive de ne pas faire.
Mais même si tu dis, demain, je vais travailler 20 heures. Et je vais travailler. Mais l'argent que tu pouvais gagner aujourd'hui, tu ne l'as pas gagné. Nigmar. C'est perdu. Alors, dans ce cas-là, donc c'est ce qui veut dire Admorazaka. Donc ça pose une question. Comment ça se fait qu'on nous dit que faire les chouvas sur une mitzvah positive, c'est tellement plus facile qu'une mitzvah négative? On va lire dans les mots. En bas de la page. Pirouche, ça veut dire, afagav delinan kiyum. Bien que par rapport à l'accomplissement, mitzvat asek dola, un commandement positif est plus grand. Chez Doret l'otas, puisqu'il repousse l'interdire. Ce que je vous ai expliqué. Une mitzvah positive repousse une mitzvah négative. Et en plus de ça, spirituellement, passez à la page 168. D'accord? Voilà, il y a toute une, ah oui, bon. Pardon, la page 170. Il y a toute une grande explication ici. D'accord? Donc. Oui, parce que là, il rentre dans une, il donne une explication. D'accord? Donc. Aïnou Mishoum. Ça, c'est parce que, 170. Parce qu'il y a une longue explication. Aïnou Mishoum, c'est parce que. Shaliedek yu mitzvat ase. Lorsque tu accomplis une mitzvah positive, mam shir orf shefa belomot lionim. Pour répondre à ta question, David. Lorsque tu accomplis une mitzvah positive, tu génères une lumière et un flux d'Akadosh Baruch Hu de bracha dans le monde supérieur qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Chaque jour a sa bracha. Chaque jour a son flux. Si tu as raté aujourd'hui, chaque mitzvah a son flux spécifique. Et donc, un jour où j'ai raté, j'ai pas mis les téfilines, le flux correspondant au, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Au 4 qui se lève, 5179, il y a un flux particulier, il y a une énergie particulière qui peut être obtenue qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, par Mendy Assouline, 4 qui se lève, 5179. Maintenant, j'ai beau mettre les téfilines 10 fois demain, j'ai beau ne pas omettre les téfilines une seule fois jusqu'à la fin de ma vie, Dieu dit, je te pardonne, pas de problème. Mais ce que t'as pas fait, t'as pas fait. Donc c'est clair qu'une mitzvah positive est bien plus grave qu'une négative. Pourquoi? Parce que ce que tu n'as pas fait, tu peux jamais le récupérer. Comme le Zohar, nous dit, des ramach pikudim in remach evarim de malka. Le Zohar explique que les 248 mitzvot correspondent aux 248 membres du roi. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, on le compare à un roi qui a 248 membres. Maintenant, tu comprends, quand tu as une personne qui a 247 membres en parfaite santé, mais qui lui manque un membre, un seul, même si ce membre, c'est le petit doigt de pied, et que le reste du corps est en parfaite santé, il va vivre jusqu'à 120 ans. Et le gars, il a 90 ans, 100 ans, il est en parfaite santé. Ce que tu n'as pas, tu n'as pas. C'est-à-dire, tu peux pas avoir ce que tu n'as pas. De la même façon, tu peux être un juif parfait sur toutes les mitzvot. Tu dis, mais voilà, je fais la prière, je donne la tzedaka, je fais ci, je fais ça, je fais des actes de charité. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais ce que tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Donc, c'est grave de ne pas faire une positive. Ok? Vega manachou elokit. La lumière que j'amène dans le monde, c'est une lumière que j'amène dans le monde en général, et c'est une lumière que j'amène aussi sur moi, sur mon âme divine. Comment je suis omrim? Regardez-moi dans le texte. Comment je suis omrim, comme on dit? Je suis en bas de la page 170. Asher ki deshanu be mitzvotav. Traduction. Ça, vous allez avoir, vous allez apprendre quelque chose. Que Dieu nous a sanctifiés par ses mitzvot. C'est-à-dire qu'une mitzvah n'est pas qu'une injonction. Une injonction que Dieu dit, tu feras ci, donc j'accomplis une injonction. C'est beaucoup plus que ça. Une mitzvah, c'est une manière de Dieu de me sanctifier. Chaque mitzvah me sanctifie. Donc si je n'ai pas accompli une mitzvah positive, il me manque une sanctification. C'est pas compliqué. Il me manque quelque chose. Alors dans ce cas-là, comment ça se fait que faire teshuva sur une mitzvah positive, c'est tellement plus facile que sur une mitzvah négative? Quelle est la logique? Quelle est la logique qui est derrière? C'est tellement plus grave une mitzvah positive. La logique est très simple. Pour expliquer la logique, je vais vous donner un exemple. Un exemple concret. Imaginez, c'est un exemple que j'avais donné aussi juste avant Kippour, au cours que j'avais fait dans le vendredi matin. Imaginez que votre femme, elle vous dit la chose suivante. Elle vous dit, est-ce que tu peux aller s'il te plaît chez Carrefour, chez Franprix, on va pas faire de voilà, de Franprix, et m'acheter du riz, un paquet de riz. Et m'acheter aussi des avocats, et m'acheter aussi, qu'est-ce qu'on va acheter encore? Des pâtes. Très bien. C'est une liste de courses. Elle te dit du riz Uncle Ben's. Tu dis, c'est pas de panzani. Bon, etc. T'as une liste. Tu vas maintenant chez Carrefour. Tu oublies. Il y en a un que tu oublies. Tu oublies le riz. Ah ouais. Ou bien t'as oublié le riz. Elle t'a dit Uncle Ben's, acheté un riz Carrefour.
Catastrophe.
D'accord. Caché, pas caché, une question. Bon. En tout cas, il t'a acheté. Tu rentres à la maison. Elle découvre qu'il manque quelque chose. Je t'ai donné une injonction. Je t'ai donné trois mitzvot. Je dis tac, tac, tac. Tu reviens, tu m'en as fait que deux. Qu'est-ce qu'elle va dire? Non mais qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire pourquoi t'as pas acheté? Je t'ai demandé. Je t'ai fait une liste. Je t'ai demandé. Je t'ai dit pourquoi t'as pas écrit? Pourquoi t'as pas ci? Pourquoi t'as pas ça? Très bien. C'est un premier scénario. Maintenant imagine un deuxième scénario. Elle te dit va à Carrefour s'il te plaît et attention, surtout attention. Tu m'achètes le riz Uncle Ben's et n'achète pas une autre marque. C'est pas elle t'a dit, Oncle Ben, c'est toi, t'as bon, t'as pas fait tilt, tu vois, t'as acheté. T'as précisé. Il y a eu un commandement négatif. Attention, n'achète pas ça. Et toi, tu viens, je mets, tu lui ramènes ce qu'elle t'a dit de pas acheter. Là, c'est une autre chkamba à la maison. C'est pas la même chose. Bon, ça n'a rien à voir. Il y a aussi un exemple qui arrive dans les affaires, pareil. Tu vas donner une personne, tu vas lui demander de faire une course. T'as un secrétaire, etc. Tu lui demandes, tu vas m'acheter ça, s'il te plaît. Bon, il va là-bas, et il n'y a pas le produit qu'il a demandé, alors il essaie de bien faire, il prend un autre produit. Bon, il revient, tu peux dire, écoute, t'es planté, t'as pas acheté ce qu'il fallait, t'es trompé, c'est pas ce que je voulais. Mais bon, tu laisses passer. Mais si tu lui dis, écoute, tu m'achètes que ce produit, et s'il n'y a pas ça, tu prends rien. Et lui, il va, rkik, il revient avec le produit, un autre produit. Là, tu lui dis, mais je comprends pas. Je t'avais dit de pas acheter. Ça veut dire que ce que je vous montrais par cet exemple, c'est que il est vrai qu'en ce qui concerne la kedusha qu'on amène sur notre neshama et qu'on amène dans le monde, il est clair qu'une mitzvah positive est plus importante qu'une mitzvah négative. La preuve, c'est que lorsqu'il y a un conflit entre les deux, laquelle a la préséance ? La positive. Mais on ne parle pas maintenant de préséance, on parle de teshuva. Tu fais teshuva sur quoi ? Sur l'affront que tu as fait à Kadosh Baruch Hu. Dans quel type de mitzvah t'as plus fait un affront à Kadosh Baruch Hu ?
Dans la négative.
Bien sûr. Dans la positive. Dieu m'a dit tu mettrais les tefillines tous les jours. J'ai oublié de mettre les tefillines. J'ai oublié. Tu m'as dit ta, j'ai oublié. Mais dans la négative, Dieu te dit tu ne travailleras pas à Shabbat. Et moi j'ai travaillé.
Tu n'achètes pas un autre riz, tu achètes
plus. Exactement. Voilà. Là c'est un affront qui est beaucoup plus grand à Dieu. Alors c'est vrai que la positive repousse la négative. Ça c'est vrai. Mais lorsqu'on parle de teshuvah, on n'a plus les mêmes critères. Lorsqu'on parle de teshuvah, on regarde pas laquelle est plus importante. On regarde dans laquelle l'affront est plus fort. Et c'est la raison pour laquelle, dans une mitzvah positive, puisque finalement c'est un oubli, c'est une omission, je dis écoute, c'est un oubli, bon, tu feras mieux la prochaine fois, on te pardonne tout de suite. Ce que tu n'as pas fait, tu ne pourras plus jamais le refaire, mais on te pardonne. Par contre, dans une mitzvah négative, Dieu te dit ne fais pas ça. Et toi tu fais quand même.
Il a,
Dieu t'a dit de ne pas faire.
Ah, mais il n'a pas fait exprès.
C'est quoi alors ? Bien sûr ?
Non, mais Dieu ne te demande pas de justifier.
Dieu t'a dit de ne pas faire ça.
Mais
Dieu t'a dit de ne pas faire ça. Tu l'as fait ?
Celui qui ne fait pas Shabbat aujourd'hui.
Non, je ne rentre pas dedans. Parlons d'un cas concret, quelqu'un comme nous, qui connaît.
Si, il y en a qui vont
faire. D'accord ? Il sait, c'est un sourd. Il sait que c'est un sourd. Il l'a fait.
Un bureau, tu sais, pour le faire.
D'accord ? Ne rentrons pas dans ces sujets annexes qui n'ont rien à voir ici. Si une personne comme ça, alors il y aura d'autres registres pour lui. Je parle d'un cas concret. Dieu t'a dit de ne pas faire ça. Tu savais que tu n'avais pas à faire. Tu savais. Mais bon, t'as fait. D'accord ? Il est clair. Bah, tu sais que c'est interdit. Tu savais. Alors là, on te dit, l'affront que tu as fait à Kadosh Baruch Hu, l'affront que tu as fait à Kadosh Baruch Hu est beaucoup plus grave. Parce que là, tu as défié, tu as enfreint une parole directe du roi d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça, pour faire tes chouvas, tu comprends, Dieu t'a dit, ne fais pas ça. Toi, tu fais quand même. Après, tu arrives comme faire, tu dis, bon, je recommencerai plus. Je recommencerai plus. Je t'ai dit de pas faire. Pourquoi t'as fait? Donc là, c'est pour ça que Dieu dit, écoute, ça, pour celle-là, je mets un stand-by. D'accord? Je mets un stand-by, je suspends la punition, mais j'attends Kippour. Qu'est-ce que va rajouter Kippour? Ça, on verra plus tard. Parce que finalement, c'est vrai, qu'est-ce que rajoute de plus Kippour?
T'es en train de dire, je fais Shmata, là.
Non, c'est pas je fais Shmata, c'est que c'est plus grave. Oublier de faire quelque chose, c'est une chose. Mais faire le contraire de ce qu'on t'a dit, c'est autre chose. Tu comprends? Tu peux demander par exemple à ton fils quelque chose, tu lui dis, s'il te plaît, fais-moi ça. Il a oublié, pas bon, il a oublié.
Bon, c'est moins
que mais tu lui dis, attention! Ne touche pas à ça!
Ne joue pas avec les
amis. Ne joue pas avec ça! Et Shmet, il joue avec. Il dit, mais je comprends pas, je t'ai dit. Tout de suite, ton sang, il fait qu'un seul tour. Parce que quand tu reçois une injonction de ne pas faire quelque chose, d'accord, l'injonction, l'affront en le faisant est beaucoup plus fort qu'une omission. Il a oublié. Un oubli, c'est un oubli. Mais dans une mitzvah négative, il y a un acte qui a été accompli. J'ai fait quelque chose. Dans une mitzvah positive, j'ai oublié de faire quelque chose. C'est une omission. C'est passif. C'est-à-dire j'ai omis de faire quelque chose. C'est pas actif. J'ai pas dit, je vais toute la journée, je vais chercher à pas mettre les tefillines. J'ai oublié. C'est passif. Mais dans la mitzvah négative, c'est un acte. J'ai fait quelque chose. Pour transgresser la mitzvah négative, il faut faire un acte. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans lequel tu dis, Dieu il m'a dit que j'ai pas le droit de le faire, et ben je le fais quand même. Même si tu ne dis pas comme ça, mais c'est ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle la teshuvah sur une mitzvah négative est plus difficile. C'est logique.
Moi je pense qu'on avait parlé, de la sanctification.
Alors, ça on a dit la sanctification. La sanctification, on a dit que, par rapport à la sanctification, une mitzvah positive est infiniment plus importante qu'une négative. Pourquoi ? Parce que lorsque tu travailles pas à Shabbat, tu n'as même pas de kedusha sur toi. Tu empêches l'impureté d'arriver sur toi. Mais lorsque tu mets les tefillines, tu amènes une kedusha sur toi.
C'est pour ça que finalement, il parle.
Donc évidemment que repousser, évidemment que allumer la lumière, c'est plus important que repousser l'obscurité.
C'est pour ça qu'on ne peut pas nous prêter une lumière pendant...
Tu comprends ? Allumer la lumière, c'est plus important que repousser l'obscurité. Mais on ne parle pas maintenant d'un conflit entre une mitzvah positive et négative, dans lequel, effectivement, la positive gagne. C'est pas de ça qu'on parle. On parle maintenant d'une personne qui a omis de faire les deux. C'est-à-dire, ni il a accompli la mitzvah positive, et en plus, il a transmis la négative. Là, on te dit lequel est plus grave. Là, on te dit c'est un autre registre. C'est logique. Parce que la mitzvah négative, l'affront à Kadosh Baruch Hu, la Mérida. Mérida, vous savez c'est quoi Mérida? L'Imrod. Mérida, c'est une révolte contre le roi. Ça veut dire que, ça veut dire que le roi est élu de ne pas faire quelque chose. C'est lui le patron. Toi, tu dis, non, c'est moi le patron. Il m'a dit de ne pas faire, je fais quand même. Je ne te calcule pas. Je ne parle pas comme ça à Dieu, mais c'est ce qui se passe. Dieu m'a dit, tu ne feras pas, j'ai fait. Donc, une transgression d'une mitzvah négative est plus difficile à réparer qu'une mitzvah positive. C'est normal, c'est logique. Alors, on va continuer.
On est mal barré, alors.
Pourquoi? Pourquoi on est mal barré? Alors, après, il va falloir définir ce que c'est la teshuvah. Comment on fait teshuvah?
Mais ça peut être une provocation.
Non, c'est pas forcément une provocation.
Ça. Il t'interdit de faire quelque chose, et tu fais le contraire. Donc tu provoques.
Mais moi, je n'ai pas passé la provocation.
Comment je veux bien faire, mais il faut que tu m'expliques pourquoi. Tu ne veux pas que je fasse. Donc cette convocation-là, que lui te fait, c'est une provocation en réalité. C'est pas une convocation.
Dieu, il t'a dit, tu ne feras pas ça.
Imaginons un instant ton fils, par exemple. Il va se mettre à crier contre toi pour quelque chose qu'il n'a pas compris. En réalité, c'est pas... Toi, tu as l'impression que c'est une provocation qu'il te fait. En réalité, non, il te convoque à avoir une réponse qu'il n'a pas eue.
Joseph, je vais expliquer. On va donner un exemple avec les repas alimentaires. Oui. Imaginez que j'ai dit à un enfant, je lui dis, tu vas manger 3 repas par jour.
Inversement proportionnel.
Le petit déjeuner, d'accord, le déjeuner et le dîner. Oui. Maintenant, il a oublié le déjeuner. Il n'a pas mangé.
Il n'a pas mangé
à l'école.
D'accord.
Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va dire, bon, écoute, on t'a dit clairement de manger, t'es pas mangé, donc t'as omis d'accomplir. Bon, alors, il va te dire, j'ai pas mangé. Il dit, ok, demain tu feras mieux. Mal à la saute. Maintenant, deuxième exemple. Il y a du poison qui est posé ici. Et tu dis à l'enfant, attention, ne touche pas à ça, c'est un médicament. Ne peux pas toucher à ça. Il prend, il mange. Là, c'est autre chose. Là, il y a eu un acte délibéré, exactement. Et c'est un acte, c'est pas passif, ça, c'est actif. C'est pas, j'ai oublié de, j'ai fait. J'ai transgressé.
Ouais.
C'est une transgression.
Oui, mais il le savait en plus.
C'est pas une omission, même en français, une transgression. Exactement. C'est très grave.
Bah oui. Mais
t'as brûlé un feu rouge.
Exactement.
Tu comprends?
Mais
bien sûr.
Il dit mais pourquoi est-ce qu'il provoque? Pourquoi qu'il va transgresser? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que d'un événement à un autre événement la personne?
Mais quel rapport? C'est interdit.
On parle de la philosophie.
Joseph. Oui. Assour.
D'accord.
Ouais, c'est tout.
Assour de voir le téléphone.
Les lois ne sont pas faites pour être contournées. En tout cas, pas chez Dieu.
Quand on ne comprend pas les lois.
Il y a des gens, pour eux, dès qu'il y a un texte de loi, tout de suite, ils réfléchissent comment je vais le contourner. Non, un texte, la loi, c'est la loi.
Sur la finance, ça.
Adam Marichon, il a transgressé.
Parce que là, maintenant, à l'instant que je vous parle, il y a des gens qui sont déjà en train de réfléchir comment ils vont contourner les lois 2019.
Bah oui, les nouvelles lois.
Ils n'ont pas encore commencé, mais ils vont réfléchir comment ils vont faire.
De toute façon, la
Torah, c'est pas comme ça.
La loi est faite pour être contournée.
Non, Razé Shalom.
Non,
Razé Shalom, je suis pas d'accord.
Il y a des aménagements.
Non.
Il y a des astuces.
Cette semaine, avec Yaakov qui a rusé pour avoir le droit d'aînesse, il a.
Ah non, pas du tout.
Au départ, il n'est pas aîné.
Tout s'explique. Non. Les lois, c'est pas fait pour être contourné. Razé Shalom.
De manière amicale.
La Torah et Emet ne changent pas. Après, il y a des cas dans lesquels.
Ça n'empêche pas d'être.
Il y a des cas, on a parlé, on a fait tout un cours dessus vendredi soir. Il y a des cas dans lesquels la halakha t'autorise à mentir. Ou à mentir par omission, en tout cas. Mais c'est la halakha qui l'autorise. C'est-à-dire que tout ce que tu fais doit être dans le cadre de la halakha. C'est la halakha qui me dit, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Là, c'est la ligne rouge. Tu dépasses pas ça. Mais c'est toujours la halakha qui régit ma vie. C'est jamais moi qui décide, bon, c'est bon, je prends permission. On prend jamais une permission. La permission doit être écrite. Elle doit être documentée. Elle doit être basée sur quelque chose. Donc je reprends ce qu'on est en train de dire ici.
Non, mais le fait, par exemple, qu'une ceinture à l'arrière, qu'on utilise la clé pour faire pour une ceinture shabbatique, par exemple, je trouve que c'est astucieux. C'est une espèce de...
Mais où est le problème?
Non, mais... Forcément.
Mais le problème?
C'est malicieux.
Évidemment. N'importe quelle question qui existe, dans la Torah, il y a
la plata, c'est pas évidemment. Moi,
j'ai pas allumé le feu. La Torah matin, il a allumé le feu, j'ai pas allumé le feu.
J'utilise le feu.
Alors, vous voulez comment je prends Shabbat?
Non, mais dans l'absolu.
La Torah t'a pas dit tu mangeras froid Shabbat? La Torah t'a pas dit tu laisseras ta porte ouverte tout Shabbat? La Torah t'a pas dit tu resteras dehors de chez toi pendant tout Shabbat? La Torah t'a dit tu porteras pas? J'ai pas porté.
Mais non, tu ramènes.
J'ai respecté la halakha.
Oui, mais c'est astucieux, c'est malicieux.
Non, c'est pas malicieux. Dans le cas de ce qu'on m'a autorisé,
c'est très intelligent.
Non, mais dans le cas de ce qu'on m'a autorisé, ce qu'on m'a interdit, je m'adapte. Mais je suis pas en train de chercher des combines. C'est pas une combine. La Torah m'a dit
que tu...
Mais attendez, la Torah m'a dit que tu n'allumes pas le feu Shabbat. Je mange comment? Je mange quoi?
D'accord, mais on utilise un appareil électrique.
La transgression, ça.
Tu l'as branché avant le Shabbat.
Et alors, quoi le problème?
Tu l'as branché avant le Shabbat, il n'y a pas de problème.
Et la lumière? Vous n'avez pas la lumière ici qui est allumée pendant le Shabbat? Pourquoi tu profites de la lumière? C'est du feu, c'est la même chose.
Il y a des manières de faire.
Quelle différence entre la lumière et la plata?
Il y a des programmateurs, il y a des machins.
Mais quelle différence entre la lumière et la plata? C'est la même chose. J'ai allumé la lumière avant Shabbat.
Je programme en amont une lumière.
Quelle différence entre une bougie que je vais allumer avant Shabbat ou une lumière que je vais allumer avant Shabbat qui va m'éclairer pendant Shabbat et une plata? Non, mais c'est la même chose.
Non, mais je trouve ça astucieux. Je trouve que les rabbins se sont ont trouvé des astuces.
Non,
de,
c'est même pas.
De contourner. Bah, au contraire. Utiliser une clé pour faire la jonction sur une ceinture shabbatique pour ne pas avoir porté, je trouve que c'est astucieux.
Oui, astucieux, pourquoi pas.
Et je pense que dans la halakha, les rabbins ont beaucoup réfléchi pour à la fois rester dans le cadre de la halakha, voilà,
et l'esprit de la halakha,
et en même temps trouver une astuce.
En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'une mitzvah positive est plus importante qu'une négative.
Bon. Ok.
Voilà. C'est-à-dire que je vais être concret. C'est-à-dire que par exemple, lorsque je vais ramener quelqu'un à la Torah, avant de lui parler de ne pas profaner le Shabbat, je vais d'abord lui parler de mettre les tefillines. Parce qu'une positive est plus importante qu'une négative. Quand tu parles de négative, tu l'empêches d'amener l'obscurité chez lui. Quand tu lui fais une positive, tu allumes la lumière chez lui. Alors, empêcher, isoler pour empêcher l'obscurité, c'est bien, mais allumer la lumière, c'est infiniment plus important. Il n'y a pas de photo, Bichlal, la question ne se pose pas. Mais concernant la teshuva, c'est autre chose. Concernant la teshuva, faire teshuva sur une omission d'une positive, c'est plus facile que faire teshuva sur une transgression active d'une mitzvah négative. C'est logique. On va expliquer dans les mots. En bas de la page 170. Ah, va, l'inyan tshuva. Mais concernant la tshuva, c'est vrai que concernant l'accomplissement, une mitzvah positive repousse tout le temps une mitzvah négative. Mais concernant la tshuva, av shemochalin loa onesh. Même si on lui pardonne la faute, la punition, Hashemarav Malchutoid Barer, sur le fait qu'il s'est révolté contre Hashem, Velo Asama Amara Melech, et qu'il n'a pas fait ce que le roi a dit, Mikol Makom, quand même, Aor Neda. Ne crois pas qu'une mitzvah positive, si on t'accorde la teshuva tout de suite, ça veut dire que t'as réparé. T'as rien réparé. On te punira pas, c'est tout. Et là, on touche à une autre dimension. C'est que, si vous voulez, je vous donne un exemple concret. Imaginez, t'as une personne, il y avait un joli vase qui était posé sur la table. Ok? Ce monsieur, il a pris le vase, il l'a jeté par terre. Activement. Il a cassé le vase. Vous savez quoi? Je vais faire mieux que ça. Je lui dis, fais attention au vase, il n'a pas fait attention. Là, sans faire exprès, le vase, il est tombé. Voilà, une omission. Pas fait attention. Le vase, il est cassé. Il s'excuse. Il dit, je t'en prie, je m'excuse, j'ai pas fait attention. J'ai pas vu qu'il y avait un gosse qui était là, qui allait tirer. C'est vrai que tu m'as dit faire attention, mais j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Je dis, ok, je te pardonne, je t'excuse. Mais le vase,
il est cassé.
Il est récupérable. C'est-à-dire, ce vase, tu ne peux plus le récupérer. Je peux te pardonner pour le futur. Donc là, on touche une autre dimension. Qui est, c'est quoi la teshuva? Est-ce que teshuva, ça veut dire que Dieu me pardonne dans le sens qu'il ne me punit pas? Ou est-ce que teshuva, ça veut dire que j'ai réparé la faute?
Normalement, c'est quand on fait réparer la faute.
Attention, c'est une erreur.
Non, tu peux
parce que c'est une erreur. Parce que je vais vous expliquer le problème. C'est là une idée reçue qui est fausse. Teshuva en hébreu veut dire quoi?
Retour.
Veut dire retour. Ouais, Kapara veut dire pardon. Par contre, tikkun veut dire réparation. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que je peux faire un super kippour et Dieu me pardonne, mais je n'ai pas réparé ce que j'ai fait.
Est-ce que j'ai le pouvoir de réparer d'abord?
On verra, bien sûr. On peut réparer, mais c'est très 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 long. Comment il dit le roi David? On verra plus tard. Il dit, Vechatati negdi tamid, ma faute est tout le temps devant moi. Parce que quand tu fais une faute, l'impact est infini, comme une mitzvah. Une mitzvah, l'impact est infini, une faute, l'impact est infini. Donc même si tu as réparé à ce niveau-là, mais quand tu grandis un peu plus, tu réalises encore plus la gravité de ce que tu as fait. Donc tu regrettes encore plus. Donc le regret est infini. Parce que...
Le regret, d'accord, mais la réparation.
Mais la réparation est infinie aussi. Comment tu répares quelque chose? C'est compliqué, comment tu répares?
Tu peux pas réparer.
Hein? Alors si. On va réparer, par exemple, on va dire que grâce à ça, que le vase s'est cassé, ben, grâce à ça, ça m'a inspiré à construire 10 vases. Ok, je veux bien, mais t'as pas réparé le vase qui était cassé. Parce que pour réparer le vase qui était cassé, il faut recoller le morceau.
Mais grâce à ça, j'ai gagné 10.
Oui, mais le vase qui est cassé, tu l'as pas récupéré.
Il restera toujours cassé, de toute façon. Il est réparable.
Le vase qui est cassé, tu peux pas récupérer, les morceaux sont cassés.
Il est réparable, même collé.
Donc c'est une vraie question que je pose ici. Ça veut dire, est-ce que, finalement, c'est quoi la teshuva? Est-ce que la teshuva, c'est, on va dire, une relaxe? Je dis, bon, écoute, je te punis pas, c'est bon, ton casier est vierge. Ok, son casier est vierge, mais il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il a cassé un vase. Il n'ira pas en prison, il n'a pas de casier, je veux bien, ok, pas de problème. Mais le problème est là. Donc est-ce qu'on peut récupérer? Alors c'est là ce qu'on va expliquer, que réparer une mitzvah négative, c'est plus facile que réparer une mitzvah positive.
Alors que c'est tout à l'heure, c'était le
contraire. Attends, justement, non, je vais expliquer tout de suite, c'est très simple. Je vais expliquer pourquoi. Une personne qui devait mettre les tefilines aujourd'hui, qui ne les a pas mises, est-ce que c'est réparable?
Non.
Non, c'est irrécupérable.
Oh, le temps, il est passé.
La Gemara, elle dit, mais ouvat le yuchal litkon. Elle dit, c'est quoi quelque chose qui est tordu, qui ne pourra jamais être réparé? Elle donne deux exemples. Premier exemple, elle dit, c'est celui qui est parti avec une femme qui a fait un mamzer. T'es irrécupérable. Tu peux le tuer, le gosse. C'est un maboule, mais bon. L'acte qui a été fait est irrécupérable. Et elle donne un deuxième exemple. C'est curieux pourquoi elle met ces deux exemples. Deuxième exemple, celui qui est parti dormir le soir, il a mangé. D'accord, il s'est allongé sur le canapé. Il a fait la nuit, il a oublié de faire schéma. Il n'a pas fait schéma. Il n'a pas fait schéma. Il n'a pas fait schéma. Le schéma, il serait le soir. Il se réveille, il est déjà 7h du matin. C'est fini. Il a raté le schéma. Est-ce qu'il peut réparer ce schéma qu'il a raté? Mais ouvat, lo yuchal litkon.
Il
ne
peut pas.
Tordu qu'il ne pourra jamais récupérer. Donc, réparer une mitzvah positive, c'est quasi impossible. Par contre, réparer une mitzvah négative, c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Tu as cassé un vase, on peut essayer de reprendre, de recoller les morceaux. Je peux essayer. Mais si j'ai pas fait ce que je devais faire, le jour J, ben, ce jour J, c'est raté, c'est terminé. Nigmar, c'est fini. Donc, ça, c'est très important pour expliquer qu'il y a trois choses, il y a trois dimensions ici. Première dimension, c'est lorsque j'ai le choix entre une mitzvah positive et une négative. Laquelle a la préséance? Toujours la positive. Toujours. Dans tous les cas. Maintenant, deuxième piste. D'accord? Maintenant, j'ai transgressé la positive et la négative et je vais faire teshuva. Je vais faire teshuva. Alors, je veux, pas teshuva, je veux réparer. Je veux tikkun. Là, on te dit, tu veux réparer? La positive, c'est irréparable. C'est raté, c'est fini. La négative, tu peux essayer de réparer. T'as cassé, tu peux essayer de réparer. Maintenant, on parle d'une troisième chose. On parle ni d'accomplissement, ni de réparation. On parle de teshuva, de retour. Retour sur quoi? Retour sur une transgression, retour sur un affront à Kadosh Roland. Tu dis, ah, tu veux parler de retour? Retour dans le sens que Dieu va te relaxer, c'est plus facile de faire un retour sur une positive qu'une négative. Même si la positive est plus, même si la positive est plus importante que la négative, mais l'affront était moins important. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, je vais arriver. Je suis sûr que chacun maintenant dans sa tête, en vérité, on doit essayer, si vous le faites pas déjà, il faut essayer de le faire maintenant, d'essayer de s'imaginer dans notre tête, voilà, une mitzvah négative que je fais, que je transgresse malheureusement, une mitzvah positive que je n'accomplis pas encore, et se poser la question maintenant dans sa tête, se dire, dans quelle catégorie de faute je sens que j'affronte Dieu? Et dans laquelle je sens que bon, j'ai pas fait. Non, il a pas fait. Il devait venir à la synagogue, il est pas venu, il dormait. Il dormait. Qu'est-ce qu'il se fait, hein? Il est pas venu. Voilà, il est pas venu. Ok, il est pas venu. Il devait mettre les tefilines, il a oublié, il a pas mis. Ok?
D'accord, ça c'est dans le cas de.
Oui.
Tu oublies qu'un jour. Les journées. Mais quand tu oublies pendant plus de la moitié de ta vie.
Très bien.
C'est trois fois qu'on ne peut plus.
C'est un sacré capital.
Mais c'est quoi la teshuva?
Non.
C'est pour ça que j'expliquais. C'est pour ça que j'expliquais au début du cours. J'ai dit, c'est quoi la teshuva? La teshuva, on va expliquer ça après, longuement. On va s'arrêter longuement dessus. La teshuva, c'est une décision sincère et concrète. Dans laquelle je dis, je veux plus recommencer. Mais il faut expliquer concrètement comment tu veux plus recommencer. Parce que n'importe qui fait une faute, la seconde après, il dit, je recommencerai plus. Il recommence. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vraiment regretté ce qu'il a fait. C'est pas sûr, en tout cas. Donc il faut prendre des mesures. Il dit, voilà, je regrette ce que j'ai fait. Et voilà ce que je vais essayer de faire pour ne pas que ça se reproduise. Après, peut-être que je vais retomber encore. Je sais pas. Voilà ce que je vais essayer de faire. Si je sais que chaque fois que je passe par telle rue à côté de telle femme, il se passe des choses, eh ben, je passe plus là-bas. D'accord? Je la tag barré, ça y est, c'est fini.
Oui, barré.
N'habite plus à l'adresse indiquée.
Ah oui, c'est ça, n'habite plus à l'adresse.
Ok.
C'est ça,
bon.
L'idée.
Donc.
Non, c'est même pas l'adresse, c'est inconnu à l'adresse.
Non, n'habite pas à l'adresse
indiquée. Non, c'est inconnu à l'adresse.
Donc, au vert, je suis en bas de la page 171. Celui qui transgresse sur une mitzvah négative, allez déchirer mitzvah karabinavsh, osef gam le mal, abishor, je me kochutzvah. Quand tu transgresses une mitzvah négative, D'accord. Tu fais un défaut dans ton âme. Et donc, c'est pour ça qu'il te dit, je saute la parenthèse, page 172, la reine, c'est pour cela, en kapara le nafsho velo le malad yamakipurim. Non, on va expliquer pourquoi, quand, sur une mitzvah négative, comme on a expliqué, l'affront à Dieu est beaucoup plus fort. Dieu t'a dit de ne pas faire, t'as fait quand même, t'as cassé. Alors, comment tu fais tchouva? On te dit, écoute, tu fais tchouva, mais Dieu, il va en suspens. Il dit, écoute, on va attendre.
Kippour.
Pourquoi Kippour? Qu'est-ce qui se passe à Kippour? Qui va yom azé, yéchaper alechem, ça vous rappelle, hein, des souvenirs? Yéchaper alechem, taher etrem, mikor, chatotechem, vna hachem, titharo, hazak. Dans ce passage se cache le secret de Kippour. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe à Kippour? Je veux dire, pourquoi Kippour, Dieu me pardonnerait plus que d'habitude? Qu'est-ce que moi j'ai fait de plus à Kippour que je n'ai pas fait toute l'année? Ou qu'est-ce que Dieu fait de plus qu'il n'a pas fait toute l'année? Qu'est-ce qui fait qu'à Kippour, Dieu dit, bon, tu m'as fait un affront, mais je te pardonne?
Il nous trempe dans le miguet.
Voilà. On va voir. Moshe Katouf, comme il est écrit. Vechiper à la Kodesh. Au milieu de la page 172. Que Moshe Katouf, comme il est écrit. Vechiper à la Kodesh. Il fera expiation pour le sanctuaire. Mitum hot bene Israël. Des impuretés des enfants d'Israël. Mipishem, etc. Lifne Hashem Titaharu. Devant Hachem, vous serez purifié. Ça veut dire quoi? Devant Hachem, vous serez purifié. Ça veut dire que, ce qu'il veut dire ici, c'est que ce qui est particulier le jour de Kippour, c'est que Kippour, tu arrives à un niveau qui est lifné Hachem. Devant Hachem. Toute l'année, tu montes jusqu'à Hachem. Donc Hachem, tu dis, moi, je suis lui de pas faire. T'as fauté, c'est fini. Kippour, tu es lifné Hachem. Tu as un niveau qui dépasse le nom d'Hachem. C'est-à-dire, c'est vrai que ce niveau-là est interdit, mais tu touches une fibre d'Akadosh Baruch Hu, dans laquelle Akadosh Baruch Hu te dit, écoute, tu sais quoi? Tu es mon fils, même si t'as pas écouté ce que je t'ai dit. Si vous voulez, on va donner d'un père et d'un fils. T'as un père qui dit quelque chose à son fils, il dit, tu feras pas ça. Et le fils, il l'a fait quand même. Le père est fâché. Il peut être fâché pendant des semaines. Il est fâché. Je t'ai dit de pas faire, tu as fait. T'es grand maintenant, comment t'as pas compris? Après, arrive le jour de l'anniversaire du père. Et le fils, il vient avec un grand sourire, avec un cadeau. Il dit, écoute, papa, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qu'est-ce qui va dire le père? J'espère, en tout cas. Viens, mon fils. C'est quoi ce viens, mon fils? Est-ce que le père a changé? Est-ce que maintenant le père, il dit, c'est pas grave ce que tu as fait? Bien sûr, c'est grave ce qu'il a fait. Seulement, le père a touché une fibre en lui qui était plus élevée que la dépendance à la faute et à l'accomplissement de commandements. Ça veut dire que toute l'année, le père a dit, bon, la relation que j'ai avec toi dépend de d'où et d'ante, fais et ne fais pas. C'est toute l'année. Mais il y a des moments dans lesquels tu touches une fibre qui est beaucoup plus profonde. Une fibre qui n'est pas dépendante de ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Une fibre qui est de mon père, c'est tout. Ça, c'est Kippour.
Alors, la fibre, Kippour, c'est Kippour.
Oui. Parce que qu'est-ce qui se passe à Kippour? Kippour, on arrive à toucher un niveau qui est l'ifné Hachem, qui est avant Hachem encore. Hachem, c'est le nom de Dieu tel qu'il est défini avec des règles. L'ifné Hachem, c'est un niveau qui est au-dessus de ça, un niveau dans lequel Hachem c'est mon père.
Mais c'est pour ça
maintenant, est... peut-être que je mérite la prison, peut-être que, mais c'est mon père. C'est mon père. L'ifné Hachem. C'est la seule raison pour laquelle Kippour marche. C'est pas parce que tu dis Kippour arrive, Dieu y pardonne. Pourquoi il pardonne? Parce que Kippour, on arrive à un niveau qui est plus élevé.
D'accord. Et lui-même, il le dit, Titaru.
Pourquoi Titaru? Si ça n'a pas marché toute l'année, pourquoi ça marche Kippour? Vous comprenez ma question? Regardez. Le jour du grand pardon. C'est quoi la logique? Normalement, imaginez, monsieur Benitez, je vous ai blessé. Je viens vous voir, je vous demande pardon. Vous dites, non, Mendy, je te pardonne pas. Parce que c'est pas assez, c'est, tu m'as vraiment blessé. D'accord? Maintenant, monsieur Benita, vous vous dites, je vais attendre le 14 octobre. Et le 14 octobre, je vais lui pardonner. Alors, qu'est-ce que je vous posais comme question? Je vous dis, mais monsieur Benita, pourquoi le 14 octobre? Normalement, on doit dire, j'attends que tu fasses tes preuves, que quelque chose. Non, j'attends le 14 octobre. Makara, c'est la même question. J'ai fait une faute pendant l'année. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit que t'as transgressé une mesure négative. On met en suspens et à Kippour on pardonne. Qu'est-ce qui va se passer à Kippour? Qu'est-ce que je vais faire de plus à Kippour? Que j'ai pas fait aujourd'hui. Regretter, je regrette maintenant. Mais ce qui va changer à Kippour, c'est pas le regret. Ce qui va changer à Kippour,
c'est la position.
Exactement. Je suis dans une autre position. Je suis dans une position dans laquelle la relation que j'avais avec Hachem ne dépend pas de mitzvah ou avera. C'est la seule raison pour laquelle je pardonnais.
Alors, ça veut dire pourquoi on n'est pas complètement tous blanchis, alors, dans ce cas-là?
C'est une très bonne question.
Parce que normalement, dans ce cas-là,
On met les compteurs à zéro.
Et obligatoirement,
parce
c'est comme un...
Parce qu'on verra qu'il y a une troisième catégorie de foot.
Ah d'accord, voilà.
C'est là qui va nous embêter. Parce que finalement, si tu fais une teshuvah sincère, si c'est une mitzvah positive que tu n'as pas fait, tu n'as pas mis les tefillin, tu obtiens teshuvah sur place. Si c'est une mitzvah négative, classique,
tu attends
Kippour, t'es pardonné. Donc chaque Kippour, c'est un reset. On est réinitialisé. Oui. Pourquoi c'est compliqué? C'est quoi les fautes qu'on traîne? Ça, on va voir. Mais déjà, il ouvre une parenthèse. Enfin, on termine la parenthèse, pardon. Velachen, c'est pour cela, en bas de la page 172, Velachen, c'est pour cela. En l'ilmod mikan shum kula chazeshalom mizatase. Morazaken, il dit attention. Celui qui lit la Mishnah qu'on vient d'étudier, dans laquelle on te dit mitzvah positive, teshuva sur place, mitzvah négative, teshuva à Kippour, il pourrait penser, chazeshalom, qu'accomplir une positive, c'est pas grave. Il dit non, chazeshalom, t'as rien compris. Ou bifrat betalmud Torah. Et en particulier sur une mitzvah, que malheureusement on transgresse tous, étudier la Torah. Vous savez qu'il y a une mitzvah qui te dit tu étudieras la Torah chaque moment libre que tu as. Et vous savez ce que dit la Gemara? Ve'adraba, au contraire, page 173. Amrou Razal, Chachamim ont dit, Viter Akadosh Baruch Hu al Talmud al Avodah Zara. Akadosh Baruch Hu, dans certains cas, il est mévater, il laisse passer les fautes graves comme l'idolâtrie, le meurtre, etc. Av shem kritot mitot bedin, bien que ce soit des fautes très graves, pour laquelle, dans certains cas, on mérite le retranchement. Velo viter abetet el mutora, me dit la Gemara, Kadosh Baruch Hu, ne laisse pas passer la négligence de l'étude de la Torah. Ça veut dire que, ne crois pas, chas v'shalom, que commettre une mitzvah positive, c'est moins grave qu'une mitzvah négative. C'est encore plus grave. Seulement pour la teshuvah, comme l'affront était moins fort, c'est pour ça que la teshuvah est plus facile. Bon, ça c'est deux catégories, on est d'accord? Donc catégorie 1, catégorie 2. Maintenant catégorie 3. C'est quoi la catégorie 3? Ava, monsieur Benita, vous allez nous répéter les deux premières catégories.
Allez, allez. La catégorie 1, c'est quand on a fait le...
Omis d'accomplir une mitzvah
positive.
Okay.
Et donc là, on est pardonné rapidement.
Sur place.
Et là.
Si on fait tshuva.
Si on fait tshuva. Et l'autre, c'est la. On a transgressé un commandement négatif. Et là, si on fait tshuva, on est pardonné. Titharu à.
Ah, ok. Alors maintenant, à Kippour. Maintenant, la question est la suivante. Qu'est-ce qui est plus important entre une positive et une négative?
C'est la positive.
Positive. Pourquoi? Parce que la positive génère une lumière. Alors que la négative, elle enlève quelque chose. Mais pour la teshuva, laquelle est plus compliquée?
C'est la négative.
C'est la négative, parce que c'est compliqué de réparer un affront. D'accord. Ça, c'est deux catégories. Maintenant, la troisième. Troisième catégorie. Alors, on est au milieu de la page 173. Ava, al, kritot, mitot, beddin. Si une personne a transgressé des fautes passibles de retranchement, ou de la peine du tribunal. Alors, exemple, d'accord. Donc, c'est les fautes sur lesquelles on est chayav karet, c'est pas compliqué. C'est les fautes, par exemple, quelqu'un qui a mangé du chametz à Pessah. Quelqu'un qui a eu des relations avec sa femme alors qu'elle était nida. Qu'est-ce qu'on a encore comme exemple sur chayav karet? Des fautes graves, d'accord. Quelqu'un qui a mangé à Kippour. Des fautes graves. Là, c'est autre chose. D'accord. Là, c'est autre chose.
Je te dis, c'est Shabbat, c'est pas des fautes.
C'est quoi? Non, Shabbat, c'est pas Chayav Karet.
Celui à Kippour qui vient à 19h le soir, ouais, au moment du... Est-ce qu'il est titraro, lui?
Bien sûr.
Il vient juste
que pour...
S'il a fait Kippour, oui. Il vient pas, monsieur...
Mais c'est pour qu'il serait pas titaro.
Celui qui a... S'il a fait Kippour à la maison...
Pourquoi il serait pas titaro?
Il a droit.
Ça arrive. Il a rien fait.
Ah bon? Je sais pas, je pose la question, hein, j'en sais rien.
Oui, mais toi, tu sous-entends qu'il a pas fait Kippour et qu'il vient que le soir pour écouter le chauffard.
Pour le chauffard.
Et peut-être qu'il a fait
beaucoup de choses. Mais ça, c'est pas tout d'être purifié de ses péchés, c'est le lendemain, c'est là qu'il faut faire ses preuves. Mmh. Si tu recommences la même chose que la veille, t'as fait Kippour, c'est bien beau.
C'est Benita. La question n'est pas est-ce que je suis purifié. La question est est-ce que je suis pardonné. Vous comprenez ma question?
Ben oui, puisqu'il dit tout à l'heure, c'est tout le Am Israël qui est.
C'est un vrai sujet, ça.
Titharu pendant le Yom Kippour.
Regardez, imaginez quelqu'un qui m'a blessé profondément et vient s'excuser. Des fois, j'arrive pas à pardonner. Pourquoi? Parce que la blessure était profonde.
Bien sûr.
Comment il faut pardonner? Il faut deux choses. Il faut que l'autre fasse ses preuves. Et il faut que moi, j'arrive à me dépasser. Parce qu'on n'arrive pas à pardonner sinon. Alors comment Dieu fait pour pardonner? Qu'est-ce qui se passe sur le pardon? Ça, on va voir après. C'est une vraie question, c'est un vrai sujet. Bon. Maintenant, troisième catégorie. Allez, on y va. Troisième catégorie. Avar, al, kritot, ou mitot, beddin. Si une personne a transgressé sur une faute sur laquelle on est chayav karet, ou bien mitot beddin. Et des fautes sur lesquelles on est chayav, normalement, on est chayav de la mise à mort par le tribunal. Par exemple, celui qui a transgressé le Shabbat volontairement. Vous savez qu'à l'époque, tu transgresses le Shabbat volontairement, il devait être
lapidé.
Mais attention, volontairement, avec des témoins, alors qu'il était éduqué dans la religion, la totale, quoi. D'accord? Il a fait la yeshiva, il a tout fait, quand même, il transgresse. D'accord? Il a été transgressé, alors il a été prévenu, et les témoins qui l'ont vu, la totale, quoi. C'est le gars, il est là, et il a pas de circonstance atténuante, il est pas fou, parce qu'il faut être fou pour faire ça. D'accord? Etc. Ok. Mais il y a des gars comme ça. Ou bien un meurtrier. Un meurtrier. Là, c'est autre chose. Ça, il y a des fautes graves. Des fautes sur lesquelles Dieu, c'est, vous savez, c'est quoi karet? C'est quoi karet?
Karet.
Il y a des fautes sur lesquelles on est chayav karet. Retranché. Celui qui mange du Hametz HaPessah, lui dit, il est retranché du peuple juif. Celui qui mange à Kippour, retranché du peuple juif. Celui qui a des relations avec sa famille d'A, retranché du peuple juif.
Retranché toute la vie.
Ah, retranché, c'est quoi?
Jusqu'à Vétam et Ternam.
Très bonne question. On verra dans chapitre 6. Très bonne question.
Au moins,
c'est
pas longtemps,
hein.
C'est compliqué. Retrancher, c'est retrancher, c'est couper, on a coupé le fil.
Ah, je crois que c'est coupé la
alors, dans ce cas-là, on ne permet pas à ce monsieur de faire teshuva.
Hein,
s'il est coupé comme
bien.
Ça.
Alors, qu'est-ce qui se passe? On y va. Donc, Avar.
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a plus rien à faire à Kippour, alors, celui-là. Qu'est-ce qu'il va faire?
C'est la question. Avar, c'est la troisième catégorie. Là, on est en catégorie C. Avar, a kritot ou mitot beddin. S'il a transgressé, donc kritot ou mitot beddin. C'est ce qu'on vient d'expliquer. D'accord? Donc, une avéra sur le chayav karet, de retranchement, ou passif de peine d'amende par le tribunal. Tshuva, veyom à Kippourim, tolim. La teshuva et le jour de Kippour mettent en suspens la punition. Il faut les deux. Mais c'est, ça veut dire que Dieu dit bon, je te punis pas. Alors, ok, mais je comprends, mais c'est quand la teshuva, hein? Veillez souris du marquis. Ce sont les souffrances qui vont purger, qui vont nettoyer. Ah, c'est quoi, mais marquis? Ça veut dire quoi? Il ouvre la parenthèse. Pirouche, ça veut dire gomri makapara. Ça veut dire que les souffrances achèvent l'expiation. Veu milachon merika ustifa le tzartzer hanefesh. Le verbe memarkin vient du terme frotter et rincer. Ça veut dire qu'on va polir l'âme. Pourquoi? Très intéressant. Comment on traduit kapara en hébreu? C'est quoi kapara?
Kapara.
C'est quoi kapara? Alors, les gens, ils traduisent kapara par expiation. Les gens, ils traduisent kapara par repentir. C'est faux. C'est des fausses traductions. D'accord? Non. Kapara, la traduction littérale de kapara, c'est quoi? C'est nettoyage. Lorsque Dieu te dit kapara, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que t'es nettoyé. Kapara. C'est-à-dire, j'enlève la faute. Ça veut dire que tu n'es plus sale maintenant. Avant, t'étais sale, t'es plus sale. Kapara. Donc, c'est pour ça qu'on dit, il y a des fautes qui sont tellement graves, que la seule chose qui peut réellement te nettoyer, il faut un gros karcher pour cela. C'est quoi ce gros karcher? C'est les souffrances.
C'est
souffrances.
Physique, mentale.
Oui, les souffrances.
Maladie. Hein. Oui, mais alors, souffrance, ça veut dire il faut s'automutiler?
Non. Ah, attention, non. Non. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que on a la emouna. Je vais expliquer, c'est très simple, c'est une très bonne question. Dieu ne punit jamais quelqu'un pour punir. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est pas Dieu dit, tu m'as embêté. Schmet, je vais t'embêter. Non. Dieu te punit pas pour te punir. Les seuls cas où Dieu te punit, c'est pour te nettoyer. Pour me nettoyer. J'ai fait une faute, Dieu me nettoie. D'accord? C'est ça, kapara. Kapara, c'est que parfois, la kapara doit passer par Dieu de nettoyer. Parce que, encore une fois.
Alors, ça veut dire qu'il faut se réjouir à chaque fois qu'on a des épreuves.
Non. Alors, d'un autre côté. Tous les matins, on supplie à Kadosh Baruch Hu, on lui demande « Altivienu, loli denisayon, ve loli devisayon ». On demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas être passé par les épreuves. Pourtant, on a besoin des épreuves, a priori. Parce que s'il n'y a pas les épreuves, comment on va être nettoyé?
Il n'y aura pas le nettoyage.
Okay. Seulement, à Kadosh Baruch Hu, comme il est kol yachol, comme il peut tout faire, il peut aussi me nettoyer sans me faire mal.
Pourquoi il a besoin de me faire mal?
Voilà, ça veut dire que, normalement, quand t'as un vêtement qui est sale, quand t'as un vêtement qui est sale, moi, en tant qu'être humain, si je veux le nettoyer, il faut le frotter. Et quand tu frottes, tu fais mal au vêtement. Tu le frottes. Moi, j'ai une tache d'encre. Pour enlever la tache d'encre, il faut frotter. Et quand tu frottes, ça fait mal.
Mais il a pas besoin
d'ici. Mais à Kadosh Baruch Hu, il est collier. À Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il peut me nettoyer même sans me faire mal. Mais ça, c'est pour ça que je le supplie tout le matin. Je dis, écoute Hachem, je veux revenir vers toi, je t'en prie, nettoie-moi sans me faire mal. nettoie-moi, rends-moi propre, sans me faire mal. D'accord? Voilà, machine est lavée, tranquille, voilà, propre. D'accord? Mais d'un autre côté, on comprend que c'est quoi Kapara? Kapara, c'est quoi Kapara? Comment tu fais Kapara? Kapara, c'est un nettoyage. C'est-à-dire qu'il y a des fautes qui sont tellement graves pour lesquelles Kadosh Baruch Hu te dit, je peux pas te pardonner comme ça. Pas pour moi. Moi, je te pardonne, pas de problème. C'est pour toi. T'es sale.
Mais,
tu t'es sali. D'accord? Tu t'es sali, t'es bourré d'excréments, tu me dis pardonne-moi. Ok, je te pardonne, mais il faut d'abord que tu nettoies maintenant. Nettoie-toi, après viens me voir. Alors tu viens me voir, maintenant le gars il est bourré d'excréments, il va dire, écoute, je t'en prie, je recommence, répète, etc. Je dis, ok, je m'en suis pas la punition, je te punis pas. Qui pour, etc. Ok, pas de problème, je te punis pas. Mais montre-moi que tu veux nettoyer. Et voilà, le nettoyage, c'est les souffrances, c'est aussi la mort. C'est pour ça que vous savez, lorsqu'on mettait à mort quelqu'un avant, au tribunal, qu'est-ce qu'on disait? On disait mitato te caparato, que sa mort soit sa capara. On espère, Bezrat Hashem, ne pas passer par tout ça, ni par souffrance, ni par quoi que ce soit, chas v'shalom, etc. Mais ce que je veux montrer par ici, c'est qu'il y a des fautes qui demandent plus de nettoyage.
On continue. Mais alors quel est le symbolique du poulet là qu'on fait, je sais plus à quelle fête là.
C'est lui qui prend
les caparottes.
C'est lui qui prend dans la figure pour toi.
Les caparottes, quel est ce... Alors est-ce que on fait la capara pour nous ou pour quelque chose d'autre?
Attendez, mais monsieur Benita, oui, j'ai une question à vous poser.
Oui.
Vous croyez que si j'ai fait le malin pendant un an,
oui.
D'accord, on va prendre une poule, on va lui couper la tête et toutes mes fautes seront pardonnées?
Mais cependant,
attendez, je vous pose une question.
Non, mais moi je vois comment ça s'appelle.
Mais soyez cohérent.
Ça s'appelle les caparottes.
Mais je comprends, mais vous croyez vraiment ça? Je fais le malin toute l'année?
Alors il faut l'appeler autrement.
Bah, c'est quoi caparottes?
Il faut l'appeler
caparottes autrement. C'est qu'en vérité, quand je vois ce qui arrive au coq, je me dis que ce qui arrive au coq aurait dû m'arriver à moi. Et à ce moment-là, je fais teshuvah. Et quand je fais teshuvah, là, je suis pardonné. Parce que c'est graphique, tu vois tout de suite devant toi. C'est, tu vois, on coupe la tête.
Donc au final, c'est pas du tout la même valeur de donner la tzedaka au lieu de la
C'est vrai, c'est pas la même chose.
Parce que si tu dis que le sens des caparottes de Yom Kippour, c'est de voir le poulet se faire couper la tête, se dire voilà ça aurait dû être moi.
C'est vrai.
Donc c'est à moi de prendre confiance. Donner un chèque ou donner de l'espèce ou donner.
Non, il y a aussi
un tabouret, c'est pas la même.
Il y a aussi une autre chose, c'est que c'est écrit que vechataecha bitzdaka frok. Que ta faute, rachète-la avec la tzedaka. Mais ça prend avec des pincettes. Il faudrait faire un autre cours dessus pour expliquer. Est-ce qu'on peut racheter les fautes? Bon, les autres ont pompé de chez nous, ça aussi. Racheter les fautes. Est-ce qu'on peut racheter les fautes avec l'argent? Est-ce qu'une faute, c'est une valeur?
Alors, ça veut dire qu'un pauvre, il peut rien faire.
Ben, on dit bien que la tzedaka.
Est-ce qu'il faut de l'argent pour racheter? C'est une question.
Et la tzedaka dit, elle vous protège de tsarot, etc. Donc, on rachète.
Écoutez, je vais vous raconter quelque chose que j'ai entendu quand j'étais à New York. C'est un chalier du rabbi qui est chalier au Krayot. Krayot, c'est à Haïfa, tout ça, etc. Il a raconté que dans les années, je crois, début des années 80, lui, il était responsable, il était directeur là-bas dans Saint-Rabad. Une fois, il était en déplacement pendant quelques jours. Et il avait là-bas un esprit créatif. Et comme les Israéliens, ils savent faire, tu vois. Un esprit créatif qui cherchait toujours des façons comment attraper les gens. Comment attraper les gens spirituellement et aussi matériellement pour donner. Et il revient au bout de quelques jours et il voit son créatif, quoi, qui lui sort une affiche qui est toute prête. Qui lui dit, vous avez fauté, vous avez des fautes et vous voulez racheter les fautes, nous avons la solution, Tzedaka Bet Rabat. Lui voit ça, il est choqué, il dit, attends, c'est compliqué de. Il dit, quoi, c'est écrit dans Tania? C'est écrit dans la Torah, c'est quand je prends d'abord. Tzedaka Kapara, c'est écrit. Et l'autre, en plus, tu vois, il prend les mots du Gereta Tchouba, Tania, Pak, etc. Alors, je viens d'entendre cette histoire là maintenant. Alors, il nous a raconté, il a dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon créatif, je lui ai dit, écoute, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai, mais je sais pas, ça se fait pas. Voilà ce qu'on va faire. On va envoyer l'affiche au rabbi, et on fera comme il dit. Ils ont envoyé l'affiche au rabbi, pas passé une demi-heure. Le rabbi, par les moyens qu'avait l'époque, le rabbi, il répond immédiatement. Il dit, qui avait l'idée cette affiche? C'est quoi cette affiche? Et il l'entoure comme ça, il a mis des notes, etc. Pour dire, évidemment, ça se dit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment qu'on peut racheter la teshuvah, on peut racheter les fautes par la tzedaka. Il y a des façons de le faire, il y a des façons de le dire. C'est clair. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la tzedaka peut nous sauver du karcher, de devoir frotter, etc. Mais dans les faits, une personne qui a fait des fautes à Rav Karet, il doit être nettoyé. À moins que Dieu décide de faire son nettoyage. Donc ça, on est dans la troisième catégorie. La troisième catégorie, on va terminer là pour aujourd'hui. Chez Neymar, comme il est écrit, ou fakati beshelet pishah, vous venez gagner ma vana. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Je suis à la page 174. Il dit, je visiterai leur faute avec une verge, leur impiété avec des fléaux. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il frappe pas pour frapper. Ça n'existe pas. Même lorsque Hachem décide de frapper, il frappe jamais pour frapper. Il frappe pour nettoyer. Ça, c'est un grand yesod, ça, ce qu'on est en train de dire. C'est un grand fondement du judaïsme. Ça veut dire que chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas, il te dit, tu m'as embêté, Shmet, moi aussi je vais t'embêter. Tu dis non. Tu as cassé, je vais te faire réparer. Tu t'es sali, je vais te faire nettoyer. Toi-même, tu vas te nettoyer. Tu vas passer par quelque chose qui va te nettoyer. Mais je te punis pas pour te dire, tu m'as embêté, je t'embête. Ça, ça marche pas chez Akadosh Baruch
Hu. Pourtant, c'est ce qu'il a fait à Mitzrayim.
Jamais.
Si, non, si, non. Si.
Du tout, il les a nettoyés.
En les tuant.
Des fois, c'est...
Il les a tués tout le monde.
Écoutez, la Torah accepte la peine de mort dans certains cas, parce qu'il y a des situations dans lesquelles la seule possibilité pour la personne c'est de réparer ce qu'il a fait, c'est de la mort.
Il ne savait pas nager aussi.
Oui, okay. Non.
Bon. Mais bon, Saïmim Beethoven, c'est pas ça que je veux parler. Donc on a trois catégories. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord? Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va faire la deuxième partie du chapitre 1, un très joli chapitre, dans lequel on va commencer à définir qu'est-ce qu'est la Teshuvah. Maintenant, si vous voulez, on a déjà compris les trois catégories. Tac, 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 ça c'est clair. Maintenant, ce qu'il faudra définir, c'est qu'est-ce que la Teshuvah d'après la Torah? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être Baal Teshuvah? Est-ce que je dois jeûner? Est-ce que je dois pleurer? Est-ce que je dois donner de l'argent? Est-ce que je dois regretter? Est-ce que je dois tout arrêter? Est-ce que je peux arrêter une partie? Est-ce que combien de temps dure une teshuva? Est-ce que ça dure un instant? Ça dure une vie? C'est des grandes questions, ça. D'accord? Et vous allez voir que ces questions sont pas simples. Mais on aura un élément de réponse qui va donner une réponse à toutes ces questions. Et cet élément de réponse va nous accompagner tous les 12 chapitres du Tania. Du Igaret Teshuva.
Et pourquoi vous voulez nous faire attendre une semaine? Dites-nous maintenant.
Ah. Suspense.
Une question.
Ouais. Prenez le livre avec vous si vous voulez. Vous le ramenez à ce projet.
Je l'ai lu. C'est pas évident à. Enfin, je peux le comprendre, mais à partir du moment où on est dans la troisième catégorie où Dieu envoie une épreuve pour entre guillemets carcériser, nettoyer. Non, mais j'aime bien carcériser parce que c'est pas violent.
Ça veut dire que
finalement quelque part, Dieu nous aime, il tient à nous, parce qu'il veut. On dit que Dieu envoie des épreuves que l'on peut surmonter.
Bien sûr.
Pas des épreuves qu'on passe.
Donc, une maman qui nettoie son fils à la baignoire, ici, c'est l'étagé. Le gosse, il hurle. Ça fait mal. Pourquoi la mère nettoie son fils?
Parce qu'elle aime.
Parce qu'elle aime.
Elle tient lui.
Bien sûr.
Par contre, quelqu'un qui lui arrive jamais rien et il est dans la mécréance, enfin, entre guillemets, la
mécréance. Donc vous savez?
Non. Là, visuellement, parce que je le vois évoluer.
Ah, c'est pas, vous savez rien.
On peut le voir évoluer.
C'est pas sa vie.
Je connais pas ma vie, mais
on imagine quand même. Certaines personnes, on imagine quand même.
Faut jamais juger les autres.
Tu peux pas imaginer.
Parle de nous.
Ouais, c'est ça, ouais. Bien sûr, tu peux imaginer.
On n'imagine pas, ouais.
Bon, allez, messieurs. À méditer, on continue Be'ezrat Hashem la semaine prochaine. Attends.